Et vous savez, à Lourdes, nous ne sommes jamais en retard. Pourquoi? Parce que la saison commence dès qu'on arrive, c'est ça. Bon. Alors, je vais vous poser une question. Pourquoi les pèlerins de Lourdes lèvent leur cierge au moment de la procession au flambeau, au moment où on chante l'Ave Maria? Pourquoi? Vous prenez des notes, c'est la phrase la plus importante. Alors pourquoi? Par dévotion. Mais non, c'est parce qu'ils voient d'autres pèlerins faire la même chose. Mais cela est très important. Oui, parce que nous disions il y a 2 ans, lorsque nous réfléchissions sur le signe de la croix, nous disions ceci: si nous ne faisons plus le signe de la croix, les jeunes ne le feront plus. Eh oui. Et si nous ne prions plus, Alors, c'est quoi le thème d'année proposé par les sanctuaires à tous les pèlerins? Non, ce n'est pas le chapelet. Alors, on s'est trompé des salles, non? Pardon? Avec Bernadette, priez le chapelet. Avec Bernadette. Vous savez, lorsque le pape Benoît XVI est passé à Lourdes en 2008, il dira ceci: Lourdes est une... Vous m'entendez bien, hein? C'est bon. Lourdes est une école de prière. Bon, à ce moment-là, Monsieur Perrier, qui était l'évêque, me dit: alors, on pourrait proposer la prière comme thème pastoral. Et puis nous avons décliné ce thème en 3 parties, en tenant compte de 3 éléments fondamentaux de la prière: faire le signe de la croix, dire le Notre Père et dire le chapelet. Et alors, qui c'est qui va nous introduire dans cette école de prière? C'est Bernadette. C'est ce que nous allons faire par rapport au chapelet. Mais je vais commencer tout d'abord par vous poser une question. Question posée à 3h30 de l'après-midi, en plein été. Est-ce que la Sainte Vierge disait le chapelet lors de son séjour sur cette terre, au temps de Jésus? Hier soir, ça a été tout le monde dit non. Aujourd'hui, il y a des doutes. Il y en a même qui disent oui. Levez la main ceux qui sont papa et maman ici, pas les prêtres, je vous en prie. Bon, c'est bien. Écoutez, est-ce que vous aimez vous rappeler de ce que vos enfants ont fait ou ce qu'ils font aujourd'hui? Tout le temps. Tout le temps. Un père et une mère sont en train de faire mémoire, de se rappeler... de la vie de ses enfants, de ce qu'ils ont fait. Tiens, tu te rappelles quand il était gamin, quand il nous a dit ceci, quand il a fait cela? Mais la Sainte Vierge était une maman. Alors comment voulez-vous que... Mais c'était tout à fait normal que parfois elle se rappelait du moment de la naissance de son fils, quand elle a été au pied de la croix, des noces de Cana. Et c'est ça justement, dire le chapelet. C'est faire mémoire, entrer, se rappeler des mystères de la vie du Christ, parcourir les mystères de la vie du Christ. Et c'est pour cela que le pape Jean-Paul II, lorsqu'en 2003 il a écrit une belle lettre sur le chapelet, sur le rosaire, nous dira ceci: ce souvenir qu'elle a gardé au plus profond de son cœur, continuellement sont venus dans sa mémoire tout au long de son séjour sur cette terre. Et ça a été son chapelet, son rosaire qu'elle a prié pendant ces années passées, n'est-ce pas, en Palestine. Vous voyez? C'est-à-dire, Marie ne disait pas le chapelet sous la forme que nous le disons aujourd'hui, mais elle faisait mémoire des mystères de la vie du Christ. Donc là, nous avons déjà une première piste pour entrer dans cette prière du chapelet. Allons à Bernadette. Qu'est-ce que nous disait Bernadette? Pardon. Nous savons aujourd'hui qu'avant les apparitions, Bernadette savait dire et prier le Gloria, le Notre Père, le Je vous salue Marie, et qu'elle savait faire aussi le signe de la croix. Tous les éléments pour dire le chapelet. Et elle dira avant les apparitions, elle dira ceci, « Je ne savais que mon chapelet ». Vous savez, nous les prêtres, hein, parfois nous avons lu beaucoup de livres de théologie, de spiritualité, de pastorale, et ça nous arrive parfois de nous dire, et vous aussi bien sûr, comme Bernadette, « En fait, je ne sais que mon chapelet ». Et puis il ajoutera, « Et je savais tout ». Je ne savais que mon chapelet, et je savais tout. Pourquoi elle savait tout? Parce qu'elle parcourait, à partir de cette prière, les mystères de la vie du Christ. Bon, là, nous avons une autre piste déjà. Troisième piste. Voilà que cette jeune fille ferait une découverte extraordinaire lors de la première apparition. À un moment donné, elle décrit ce qu'elle voit. « Je vis une petite demoiselle enveloppée de lumière qui me regardait, souriait. Elle avait un voile blanc. » Je peux m'enlever ça parce que je commence à... « Elle avait un voile blanc, une robe blanche, une ceinture bleue, deux roses jaunes sur les pieds, un chapelet à la main. » Ah, voilà que la demoiselle de Massaville a un chapelet. Elle aussi a un chapelet dans sa poche. Donc, toutes les deux ont un chapelet. Il y a déjà quelque chose en commun. Bon, c'est vrai, au début, elle est un peu effrayée, elle a eu peur. Puis, lorsque la dame fait le signe de la croix, elle nous dira, la peur disparue, et écoutez ce que nous dit Bernadette. Ensemble, ensemble, c'est-à-dire Marie et moi, nous dîmes le chapelet. C'est une erreur extraordinaire. Ensemble, nous dîmes le chapelet. Qu'est-ce qu'elle découvre? Que Marie s'associe à sa prière. Que Marie prie avec elle. Et puis elle dira, ah, lorsque je disais le Gloria et le Notre Père, les lèvres de la dame remuaient. Mais lorsque je disais le « Je vous salue Marie », les lèvres de la dame ne remuaient pas, mais les grains du chapelet défilaient entre ses doigts. Donc Marie prie avec Bernadette. Et pourquoi? Parce que la prière, c'est tout d'abord l'activité de l'Esprit-Saint en nous. C'est saint Paul qui nous le dit. L'Esprit-Saint pousse au plus profond de notre cœur des cris, pour que nous puissions dire et reconnaître que Dieu est notre Père, Abba. La prière, c'est l'activité de l'Esprit-Saint en nous. Mais il y a un seul Esprit. Donc, Bernadette, Marie, Marie et Bernadette sont unies dans un même esprit lorsqu'elles prient. Mais quel est le but de la prière? Mais la prière n'a qu'un seul but, que notre cœur s'ouvre à la présence du Christ. C'est ça le but de la prière. Dieu a tant aimé le monde que lui a donné son propre Fils. Donc, par la prière, nous nous ouvrons au grand don que le Père a fait à l'humanité, son Fils. Donc, Marie et Bernadette prient ensemble et leur cœur s'ouvre à la présence du Fils, du Christ. Ça va? Quelle découverte, hein. Donc, vous voyez, lorsque vous êtes à la grotte ou ailleurs, et vous dites le chapelet, Marie prie avec vous. Ah, ça change tout à ce moment-là. Ça change tout. Bernadette ne prie pas pour que la Sainte Vierge apparaisse. Bernadette ne prie pas pour que la Sainte Vierge l'écoute. Bernadette ne prie pas. Comment dirais-je, je sais pas, parce qu'elle ne sait pas quoi faire. Elle prie parce qu'elle prie avec Marie. Marie et Bernadette prient ensemble. Grande découverte. Lorsque vous êtes à la grotte ou ailleurs, Marie prie avec vous. Donc là, nous avons quelques pistes. Donc vous voyez, le chapelet va jouer un rôle très important au moment des apparitions. Vous savez, Marie, c'est une grande maîtresse de vie spirituelle. Donc le chapelet jouera tout d'abord le rôle de support pédagogique, puisque la Sainte Vierge n'apprend aucune prière à Bernadette, mais Marie, elle sait que Bernadette connaît le chapelet, donc nous resterons sur au chapelet. Elle joue un rôle pédagogique. C'est la seule prière que Bernadette connaît. Et puis le chapelet jouera aussi un rôle spirituel, puisqu'ensemble, par le chapelet, Marie et Bernadette vont parcourir tout le mystère de la vie du Christ. Donc, quel est le but de cette causerie que je suis en train de faire? C'est de découvrir comment Marie, en tant que maîtresse de vie spirituelle, s'est bien débrouillée pour faire entrer Bernadette dans le mystère de la vie du Christ. Ça va? Bon, alors, nous allons nous réveiller. Alors, nous allons nous réveiller. Vous allez me donner ça. Je vais me promener un peu, quand même. Il le faut, oui. Non, mais vous le laissez là. Alors, écoutez bien. Nous allons rafraîchir un peu la mémoire et aussi nous réveiller, puisque l'heure est difficile. Eh oui, je le sais. Alors, nous allons parcourir le mystère de la vie du Christ et voir comment Marie a fait parcourir Bernadette ce mystère de la vie du Seigneur. Alors, nous allons commencer par les mystères joyeux. Quels sont les mystères joyeux? Premier mystère joyeux, l'Annonciation. Deuxième mystère joyeux, la Visitation. Troisième mystère joyeux, la naissance de Jésus. Quatrième mystère joyeux, la quoi? La présentation de Jésus au temple. Cinquième mystère joyeux, Jésus perdu et retrouvé au temple. Vous faites la traduction dans quelle langue? Non, mais là, vous. En slova, ça, c'est. Bon, c'est bien, parfait, merci. Alors donc, nous avons donc les mystères joyeux. Le pape Jean-Paul II, quand il a écrit, bienheureux Jean-Paul II, quand il a écrit la lettre sur le rosaire, nous dira ceci. Il s'appelle le mystère joyeux parce qu'il nous renvoie à la joie. En effet, le premier mystère joyeux, l'Annonciation, l'ange qui dit à Marie, « Réjouis-toi Marie ». Deuxième mystère joyeux, la Visitation, l'enfant qu'Élisabeth porte dans son sein, tressaillit de joie. Troisième mystère joyeux, la naissance, l'ange qui dit au berger, « Je vous annonce une grande joie ». Mais le quatrième et le cinquième, ça dérape. Alors, oui, mais vous vous rappelez, là, on présente l'enfant, Jésus au temple, et puis les vieillards Siméon, mes yeux ont vu le salut, n'est-ce pas, et puis il jette un coup d'œil à Marie et lui dit, « Un glaive transpercera ton cœur ». C'est comme si vous ameniez le petit, le fait baptiser à l'église, et puis le curé vous regarde et vous dit, tu sais, à cause de ce petit, tu vas souffrir. Vous ne l'invitez pas à l'apéro. Bon. Alors. Bon, là, il y a la croix plutôt. Et puis, Jésus perdu au recouvert au temple, mais ne savez-vous pas que je me dois aux affaires de mon père. Et quelle est l'affaire du père? C'est que le fils meurt sur la croix. C'est ça l'affaire du père. Donc pourquoi trois mystères qui nous renvoient à la joie et trois autres qui nous renvoient à la croix? Jean-Paul II nous dira ceci, parce qu'en fait, il s'agit d'une joie qui est le fruit de la croix du Christ. Vous voyez? C'est pas n'importe quelle joie. C'est une joie qui est le fruit de la croix. Donc ce n'est pas une joie éphémère, c'est une joie pour toujours, que personne ne pourra vous ravir. Alors nous allons découvrir comment Marie va se débrouiller pour faire découvrir cette joie à Bernadette. Ah, c'est ça! Nous allons nous situer entre la première et la septième apparition. Entre la première et la septième apparition, la dame parle une seule fois à la troisième apparition pour dire à Bernadette « Voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant 15 jours ?» Essayons un petit peu d'entrer dans les sentiments de Bernadette, ou si vous voulez bien, dans la peau de Bernadette. Nous sommes à la troisième apparition. Combien de fois Bernadette a vu déjà la dame ? Deux fois. Et elle a témoigné en disant que quand elle la voyait, son cœur était inondé de joie. Deux fois. Puis voilà cette troisième fois, la joie. Je la regardais tant que je pouvais. Et voilà que tout d'un coup, Marie lui dit, « Venir ici pendant 15 jours, quelle joie, mon Dieu, ça va durer 15 jours. » Pour l'instant, elle ne le savait pas. Il y a cette joie de la rencontre. Ça va jusque-là. Ça vous est arrivé, hein? Le gars, n'est-ce pas, qui il était flashé par une jeune fille, puis il fait une première approche, n'est-ce pas, et puis l'autre fait, l'autre attend évidemment, fait semblant, n'est-ce pas, hein, elle dit oui, je m'appelle un tel, bon, c'est tout, bon, bah, tiens, je n'ai pas été rejeté, du moins, c'est-à-dire, fait une deuxième tentative, quelques jours après, il y a trois petites phrases déjà, tiens, c'est pas si mal, et à la troisième, elle lui dit, est-ce que tu peux venir ici pendant 15 jours? Quelle joie, mon Dieu! Mais c'est comme ça qu'il faut parfois réfléchir pour entrer dans cette relation entre Marie et Bernadette. La joie, ça va durer 15 jours. Mais attention, cette joie de Bernadette sera pour elle le fruit, vous allez voir de quoi. Venir ici pendant 15 jours, pourquoi faire? On ne sait pas. Va-t-on confier une mission à Bernadette? On ne sait pas non plus. Pourquoi 15 jours? Mais on ne sait pas non plus. Bernadette aurait pu répondre, écoutez, une petite semaine, ça va bien. Le week-end, je suis libre. Mais 15 jours, ça fait un peu trop long. Ah. Et puis, venir ici pendant 15 jours, Bernadette devra vaincre pas mal d'obstacles. Premier obstacle, ses parents, quoiqu'elle a toujours pu obtenir la permission de ses parents. Deuxième obstacle, les autorités, on peut en dire long, il y a des livres qui ont été écrits sur ça. Troisième obstacle, Bernadette elle-même, et si je me suis trompé, si ce n'est qu'une illusion, pourquoi pas? Quatrième obstacle, le qu'en dira-t-on de Lourdes? Ça y allait la langue, hein? Cinquième obstacle, le clergé, la prudence. Mais devinez quel a été l'obstacle le plus grand qu'elle a dû vaincre. La Sainte Vierge. Mon père, ne dites pas ça. Vous allez chasser tous les pèlerins de Lourdes. Mais oui, la Sainte Vierge. Et pourquoi? Parce qu'elle n'est pas venue pendant 15 jours. Non. Ah, on découvre des choses. Qu'est-ce que lui dit Marie? Voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant 15 jours? Elle ne lui dit pas, Bernadette, viens ici parce que moi je vais apparaître pendant 15 jours. Non, venir ici pendant 15 jours. Et parfois, la dame ne vient pas. Et Bernadette doit, elle arrive à la grotte, elle prie pendant une heure, elle rentre au cachot en pleurant, se disant, viendra-t-elle demain? Et c'est à ce moment-là qu'il y aura les interrogatoires du commissaire. L'un d'eux durera 2 heures. Et au bout de cet interrogatoire, le commissaire qui essaie par tous les moyens de faire que Bernadette ne vienne plus à la grotte, lui dire « Ah bon, Bernadette, écoute, promets-moi de ne plus retourner à cette grotte. » Elle dira, monsieur le commissaire, je ne peux pas vous promettre cela. Mais pourquoi, Bernadette? Parce que j'ai promis d'y aller. Donc, vous voyez, ce rendez-vous sera pour Bernadette le fruit, d'abord, d'un appel à sa liberté. Veux-tu venir? Deuxièmement, d'un choix qu'elle devra faire. Troisièmement, dans la fidélité et la persévérance. Ah, et c'est parce qu'elle a été fidèle, parce qu'elle a persévéré, parce qu'elle a mis sa liberté en jeu et parce qu'elle a fait un choix que cette joie de la rencontre ne durera pas seulement 15 jours, durera toute sa vie. C'est le fruit du don de sa personne. Vous avez compris? Ah, ça va? Voilà le mystère joyeux. Mais cela touche aussi notre vie. Ça m'arrive parfois de demander à des pèlerins, un couple, ça fait combien d'années que vous êtes mariés? 40 ans, mon père. Lui, il ne sait jamais. Mais l'autre jour, c'était extraordinaire. Ça fait combien d'années vous êtes mariés? Et lui, il a commencé. Et il lui a dit, 47 ans. Ah bon? Mais c'est comme ça. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait pendant 40 ans? Mais vous avez des enfants? Oui. Quel âge ont-ils? 38, 36, 37. Bon, d'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Nous avons élevé nos enfants. Ah bon? C'est bien. Alors, ça vous a coûté tout de suite, elle répondit. Non, mon père, c'était le fruit. On a fait ça par amour. Mais il faut toujours jeter un petit coup d'œil au conjoint. Qui commence par dire d'une manière sage et précise, mais tu te rappelles ce voyage en Polynésie que nous n'avons jamais pu faire? Pourquoi? Parce qu'il y avait les trois puces qu'il fallait faire grandir. Et puis oui, c'est vrai, ça nous a coûté un petit peu. Puis on commence, hein, l'un. Mais en fait, s'ils sont là, c'est parce que eux, ils ont donné leur vie. Mais on n'a pas posé encore la bonne question. La bonne question est celle-ci. Et qui peut vous ravir la joie de l'avoir fait? Personne. Même pas la mort. Personne. Et quand on célèbre les 50 ans d'un prêtre, ouh, il y a eu de l'eau qui a passé sous le pont, des ombres, des lumières, mais il est là. Et qui peut lui ravir la joie d'avoir servi l'Église, ses frères, annoncé la parole, célébré l'Eucharistie, pardonné les péchés? Personne, personne, même pas la mort, même pas la mort. Ça c'est du Saint Paul tout ça, hein. Ni le froid, ni ceci, ni cela, oui, ni la faim, n'est-ce pas, bon. C'est la promesse de Jésus, et cela vous procurera une joie que personne ne pourra vous ravir. Mais cette joie est le fruit du don de notre propre vie. Voilà donc ce mystère joyeux qui nous renvoie à la croix. Il y a une joie fruit de cette croix. Ça va? Alors, on continue. Mystère douloureux. Premier mystère douloureux. L'agonie de Jésus au jardin des Oliviers, Gethsemane. Deuxième mystère douloureux. La flagellation. Troisième mystère douloureux, couronnement d'épines. Quatrième mystère douloureux, le portement de croix. Cinquième mystère douloureux, la crucifixion. Alors, nous prenons le troisième. Jésus couronné d'épines. Qu'est-ce que nous contemplons dans ce Jésus couronné d'épines? Nous contemplons notre humanité. La fragilité ou les drames de notre humanité. Couronner quelqu'un d'épines, c'est ridicule. C'est complètement ridicule. Et voilà cet homme qui est Jésus, qui est là, ensanglanté, plein de crachats, il a été martyrisé, la couronnée d'épines. C'est notre humanité qui est là, le ridicule de notre humanité. Oui, je suis ce que je suis, mais tous les jours, je fais expérience de mes limites, de ma fragilité, de mes traumatismes, du fait, n'est-ce pas, que je suis immergé ici dans la pesanteur du temps et de l'espace. C'est ce que Saint Paul disait, je fais le mal, n'est-ce pas, que je n'aimerais pas faire, mais je le fais. C'est notre fragilité. Nous sommes marqués, profondément marqués par le péché. Même si nous ne péchons pas, nous sommes marqués par le péché. Et tout cela, c'est ridicule. Pourquoi ? Parce qu'en même temps, nous voulons être comme Dieu lui-même il est. Mais notre couronne est d'épines. C'est ça que nous contemplons. Mais si nous nous approchons un peu plus quand même de cet homme couronné d'épines, voilà qu'un soldat, n'est-ce pas, d'un coup de lance lui transperce le cœur, et qu'est-ce qui nous est dit ? Qu'aussitôt jaillit du sang et de l'eau. Ah, voilà que au cœur de ce pauvre type, qui apparemment ne vaut rien du tout, tout l'amour de Dieu était contenu au plus profond de son cœur. Donc d'un côté nous contemplons la fragilité de l'homme, et de notre côté la grandeur de cet homme. Alors comment Marie va-t-elle se débrouiller pour faire entrer Bernadette dans ce mystère, je dirais douloureux, mais comme nous dit le pape Jean-Paul II, ce sont des mystères ouverts vers une autre réalité. Alors là, nous passons de la 8e à la 11e apparition. C'est ce qu'on appelle à Lourdes les apparitions pénitentielles. Pendant ces 4 apparitions, 8e, 9e, 10e et 11e, la dame invite Bernadette à faire 3 gestes. Premier geste, marcher à genoux et embrasser le sol. Deuxième geste, arracher des herbes et les manger. Troisième geste, se barbouiller la figure, c'est-à-dire se défigurer avec cette boue immonde de la grotte. Puis Bernadette l'ouvre les bras et se montre à la foule. C'est à ce moment-là que tante Bernarde s'introduit dans la grotte et lui dit « Pourquoi fais-tu cela ? Ce sont les bêtes, les animaux qui font comme ça. » Et Bernadette répondra tout simplement « Parce que la dame me l'a demandé. » En fait, ces 3 gestes, ce sont des gestes bibliques. Bernadette est en train de jouer un rôle, celui du Christ, parce que Marie lui demande ça. Le premier geste nous renvoie à l'incarnation du Fils de Dieu. Bernadette marchant à genoux, embrassant le sol de la grotte, c'est l'abaissement de Dieu. C'est le Dieu qui s'est fait homme. Deuxième geste, manger des herbes. Ça nous renvoie au livre de l'Exode. Vous savez, les herbes amères dans la Bible signifient le péché, ce qui fait du mal à l'homme. Et quand les Juifs voulaient signifier que Dieu libérait l'homme de toutes ses amertumes et ses péchés, qu'est-ce qu'il faisait ? Il tuait un agneau, il l'ouvrait, il le vidait, il le bourrait des herbes amères, et puis prononçait cette prière. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. L'agneau, le Christ, il a tout pris sur lui, et l'homme a été libéré. Et voilà Bernadette, d'une manière symbolique, en train de manger les herbes, de jouer le rôle de l'agneau. Et le troisième geste, c'est barbouiller la figure. Ça nous renvoie au prophète Isaïe, le chant du serviteur souffrant. Quand le prophète veut nous montrer le Christ sur le chemin du calvaire, qu'est-ce qu'il nous dit ? Son visage était tellement défiguré que l'on aurait dit qu'il ne s'agissait plus d'un visage d'homme, mais celui de mouton qu'on amenait à l'abattoir. Et à son passage, la foule l'insultait et se moquait de lui. Et voilà Bernadette, comme le Christ, défigurée. Elle se montre à la foule. Et on dira, cette fille est devenue folle, et on se moque d'elle. Mais il ne faut pas en rester là. Je ne sais pas si vous avez remarqué que ces 3 gestes ont un but précis. Celui de libérer la grotte d'une manière symbolique. D'abord, il y a un geste de proximité. Marcher à genoux, embrasser le sol, puis d'une manière symbolique, Bernadette libère la grotte des herbes, d'abord, et de la boue. Et pourquoi faut-il libérer cette grotte ? Pourquoi ? Ah, parce que cette grotte garde un trésor immense. Et à la 9e apparition, Marie dira ceci à Bernadette. « Allez boire à la source et vous y lavez. » Bernadette croyait qu'il s'agissait du gave, puisque là il y a de l'eau. Par 3 fois, Marie l'a fait revenir, et à la 4e fois, lui montre un lieu précis. Bernadette commence à gratter et voilà cette source d'eau limpide qui commence à jaillir. Les gens étaient étonnés, stupéfaits. Mais alors c'est quoi cette grotte, ce lieu sale, humide, obscur, qu'à l'époque des apparitions on appelait la tute cochon? Mais c'est quoi cette grotte? Qu'est-ce que Marie est en train de dévoiler à Bernadette? Tout d'abord, les profondeurs du cœur du Christ. Et un soldat d'un coup de lance lui transperça le cœur à ce pauvre homme et aussitôt jaillit du sang et de l'eau. Tout l'amour de Dieu était contenu au cœur de cet homme. Et on va aller encore un peu plus loin. Vous êtes bien réveillés et bien assise. Vous savez ce que c'est la grotte? La grotte, c'est nous-mêmes. La grotte, c'est nous-mêmes. Marie est en train de dévoiler les profondeurs de notre cœur. Oui, je suis cet homme, cette femme qui vieillit, qui est marquée, n'est-ce pas, par ses défauts, ses vices, ses blessures, ses traumatismes, par son égoïsme, par son péché, par sa maladie peut-être. Oui, mais au plus profond de cet homme et de cette femme, Dieu veut bien y habiter. Nous viendrons à lui et nous demeurerons en lui. Nous sommes le temple de l'Esprit Saint. Ça va? Donc, allez boire à la source et vous y lavez. Cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi finalement? Oui, allez boire, n'est-ce pas, à la source, qui est le Christ, la vie sacramentelle, mais il y a plus que ça encore. Cela veut dire que chacun de nous a une source pour donner à boire aux autres. C'est la source de l'amour de Dieu, de la charité qui est déjà en nous. Comment Bernadette a-t-elle compris ces paroles? Tout d'abord, lorsqu'elle était à Nevers, elle avait l'habitude de dire, il n'y avait pas une grotte de Lourdes, elle disait, tous les jours je fais mon pèlerinage à la grotte. Cela voulait dire, tous les jours je vais au plus profond de moi-même, pour donner aux autres, pas n'importe quoi, mais le meilleur de moi-même. Et ça c'est notre conversion, vous voyez? Mais tant qu'il s'agit de chacun d'entre nous de faire le voyage à la source, ça marche. Mais quand ce sont les autres qui veulent faire ce voyage au plus profond de notre cœur, ça fait mal. Mais ça nous fait bien en même temps. Je vous donne un exemple. Robert et Christine, couple que nous venons d'inventer. Christine qui dit à Robert, « Chérie, il faut qu'on parle. » Oh là, nous, on est coincés. Nous les hommes, ça ne va pas venir. C'est vrai, ça ne va pas venir. Ça ne viendra jamais. Pourquoi? Parce que nous les hommes, nous avons un muet là qui est toujours là. Alors il faut qu'on parle. Alors nous, comme on ne sait pas de quoi, et puis on a peur, nous avons toujours peur de ça, nous allons essayer de bien présenter les choses, de nous dédouaner. Oui, ma chérie, bien sûr. De quoi? Alors voyons, des enfants? Elle dit non. Eh bien, on a mis la barre très haut quand même, hein. Du boulot, non. De la voiture, surtout pas. Du travail, non. Alors, quelle issue je peux chercher? De ta mère? Non. Alors, comment on ne sait plus de quoi parler? Alors, de quoi, ma chérie? Elle va nous dire de toi et de moi, de toi et de moi. Vous savez ce que cette épouse est en train de dire, donnez-moi à boire, j'ai soif. C'est ça, donnez-moi à boire. L'épouse doit pouvoir boire et s'y laver dans le cœur de son époux. Et l'époux doit pouvoir boire et s'y laver dans le cœur de son épouse. C'est-à-dire, c'est instaurer le dialogue au niveau de la source. Le plus profond de l'amour, de la charité. Ça va. Et nous prêtres, nous prêtres, vous savez, quand on a fait l'homélie et puis la dame à la fin de la messe, « Ah, mon père, c'était très beau tout ce que vous nous avez dit, mais c'était pas ça. » Vous savez ce que cela veut dire ? Vous nous avez raconté des tas d'histoires, mais vous n'avez pas parlé de Dieu. Et vous avez la grâce pour nous parler de Dieu. Vous avez la source. Il fallait faire jaillir ça. Vous savez, ces sacrements. Et parfois, ça arrive aussi des relations parents-enfants. Hein, bon, les enfants, on n'a rien à faire, nous, on va partir. Et les gamins, restez avec nous. Mais nous, on va partir, restez avec nous. Vous savez ce que sont en train de dire ces gamins ? Donnez-nous à boire. Quoi ? Votre paternité et votre maternité. Perdez du temps avec nous. Ça va. Bon, on peut multiplier. Mais en fait, c'est ça. Allez boire à la source. Vous êtes, où est cette source? Elle est déjà en nous. Et notre conversion consiste justement à gratter, à désencombrer. Mais en même temps, parfois, ce sont les autres qui le font en nous. Et voilà comment... Qu'est-ce que nous contemplons alors ? Nous contemplons, oui, je suis cet homme, cette femme couronnée d'épines ridicules, et en même temps, je porte tout l'amour de Dieu au plus profond de mon cœur. La source est en moi. Voilà, oui, c'est une douleur, mais une douleur ouverte, qui nous ouvre aussi une espérance, une autre réalité. Et c'est ça la contemplation des mystères douloureux. Et voilà comme... Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, les gestes pénitentiels, nous les situons 8e, 9e, 10e et 11e. Et la découverte de la source à la 9e apparition. Ces gestes, Bernadette les a fait, ce sont des gestes répétitifs, elle les a fait pendant plusieurs fois à chacune des apparitions. Et c'est au cœur de ce geste pénitentiel que se trouve la source. Il n'y a pas les gestes pénitentiels, la source et après autre chose. Non, il y a les gestes pénitentiels et au cœur de gestes pénitentiels, la source. C'est pour nous dire quoi ? C'est ce que nous dit l'apôtre Paul. Là où a abondé le péché, ma vie, là même a surabondé la grâce. Pas ailleurs, là même a surabondé la grâce. Vous voyez, pas ailleurs, la même. Et c'est pour cela que tous les ans, nous célébrons Carême et Pâques. C'est pour nous dire que, oui, nous sommes ce que nous sommes, mais au cœur de ce Carême qui est ma vie, il y a Pâques. Voilà ce mystère douloureux. On continue. Bon, alors, mystère glorieux. Alors, mystère glorieux, quels sont les mystères glorieux ? Non, pas le baptême, non. La résurrection du Seigneur, ça c'est... Puis, l'ascension, puis la Pentecôte, puis l'ascension de Marie, et puis le couronnement de Marie au ciel. Alors, nous prenons celui du milieu, la Pentecôte. Remarquez la Pentecôte là, vous la voyez, hein ? Et alors nous avons ici deux mystères dédiés au Christ et deux autres dédiés à Marie. C'est clair, hein ? Résurrection, ascension, le Christ. Ascension, couronnement de Marie à Marie. Et au cœur, la Pentecôte. Alors regardez, le mystère de la résurrection est en lien avec le mystère de l'ascension de Marie. La résurrection du Christ, et nous parlons de la dormition de Marie. Vous voyez ? Puis, nous avons le mystère de l'ascension du Christ qui est lié au mystère du couronnement de Marie. Pourquoi ? Lorsque nous célébrons le Christ assis à la droite du Père, c'est ça le mystère de l'ascension, qu'est-ce que nous disons dans le préface de la messe ? Que lui qui est la tête du corps est déjà glorifié, déjà à côté du... Et notre corps attend, mais le corps attend. Cela veut dire que nous aussi, nous sommes glorifiés avec le Christ. Nous sommes en attente. Les membres du corps suivront la tête. Et dans le couronnement de Marie, qu'est-ce que nous célébrons? Justement, notre humanité couronnée, parce qu'elle participe de la royauté de Dieu. Vous voyez? Attention, quand nous disons Marie couronnée au ciel, ou quand dans une paroisse, dans une église, ici à Lourdes, n'importe où, on couronne la Vierge Marie, en fait, nous sommes en train de dire que c'est notre humanité qui est couronnée. Hein? Parce que Marie n'est pas une déesse. Hein? Elle est de notre race, de notre histoire, de notre temps, nous dit la liturgie. C'est l'humanité telle que Dieu l'avait pour nous. Donc le couronnement de Marie, c'est le couronnement de l'humanité qui participe déjà de l'ascension du Christ. Ça va? Bon. Donc, ces quatre mystères nous renvoient à la gloire du Christ. Et c'est par la force de l'Esprit-Saint que nous participons de la gloire et du triomphe, de la victoire du Christ. L'Esprit-Saint nous est donné pour entrer, bien sûr, dans le mystère de la croix, mais en même temps, il nous est donné pour que par la croix, nous entrions dans la victoire du Christ. C'est par la force de l'Esprit-Saint qu'aujourd'hui, nous participons, n'est-ce pas, de la gloire, de la victoire du Christ. Comment Marie va-t-elle se débrouiller pour faire découvrir cela à notre petite Bigourdane? Oh, c'est extraordinaire, extraordinaire, vous allez voir. Nous passons à la 13e apparition. À la 13e apparition, Marie dira ceci à Bernadette. « Allez dire aux prêtres qu'on bâtisse ici une chapelle, qu'on y vienne en procession. » Bon. Aujourd'hui, nous savons parfaitement que le mot prêtre, n'existe pas en patois. Marie parle en patois. Ce qui existe, c'est le mot curé. Donc, s'il s'agissait seulement du curé, Marie lui aurait dit « Allez dire à messieurs le curé ». Mais voilà que Marie patoise un mot français, comme nous francisons un mot italien, pizza, la pizza. La pizza, c'est italien. Même dans la si on le prononce bien, on dit les Français en français, on dit pizza. C'est la pizza. Je ne suis pas le père Horatio, je suis le père Horatio. Ah. Il faut de temps à autre, vous voyez. Bon. Il faut rire un peu. Bon, alors, vous voyez. Donc, elle va patoiser un mot français, prêtre. Le prêtre, c'est l'évêque, le presbyte. Donc, c'est ça, oui. Donc, le message est adressé à l'évêque. Et lorsque nous disons évêque, il ne s'agit pas seulement de prêtre, du clergé, mais il y a le religieux et les laïcs, le peuple de Dieu, toute l'Église. Bon, donc, allez dire aux prêtres qu'on bâtisse ici une chapelle, qu'on y vienne en procession. Cela, pour Bernadette, tout d'abord, a eu une portée, certainement une portée factuelle. C'est-à-dire, aller trouver monsieur le curé, puisqu'on ne sait pas notre prêtre. Bon, l'évêque, c'est un peu difficile. Trouver monsieur le curé, lui dire de construire une chapelle, qu'on vienne en procession. Cela a été fait, non pas sans inconvénient. Mais il y a plus que ça. Beaucoup plus que ça. Bernadette, la compréhension de ses paroles, la compréhension profonde, elle l'aura à Nevers, pas ici à Lourdes, lorsqu'elle quittera Lourdes. En fait, ces paroles, vous savez ce qu'elles veulent dire, ce n'est pas difficile à comprendre. Jusqu'à la 13e apparition, nous avons toujours l'impression que le dialogue qui s'est instauré entre Marie et Bernadette, et Bernadette et Marie, dialogue très féminin par ailleurs, hein, ne concerne que ces deux personnes. Et tout d'un coup, Marie ouvre ce dialogue aux dimensions de l'humanité de toute l'Église. Allez dire aux prêtres. Mais quelle est la compréhension pour Bernadette et pour nous? Quelle a été la compréhension profonde? Lorsque ces paroles ont signifié pour Bernadette ceci, Bernadette, écoutez bien, tu n'as plus rien à faire ici. C'est ça. La suite ne dépend plus de toi. Pour rappeler, à un moment donné, le Christ fait exactement la même chose. Il faut que je m'en aille. Et tu vas partir, tu vas en rester orphelin. Il faut que je m'en aille. Et je vous enverrai l'Esprit Saint. L'Esprit Saint. qui vous enseignera tout. Et même des choses que je ne vous ai pas dites encore, il vous les enseignera et vous les fera comprendre. Nous ne sommes plus dans le temps du Christ, nous sommes dans le temps de l'Esprit-Saint. Et l'Esprit-Saint a été donné à l'Église. Et c'est l'Église, n'est-ce pas, qui annonce, qui nous introduit dans le mystère du Christ, parce qu'elle a l'assistance de l'Esprit-Saint. Donc ces paroles ont signifié ceci pour Bernadette. Bernadette, tu n'as plus rien à faire ici, ou plutôt la suite ne dépend plus de toi. C'est maintenant l'Église qui prend le relais, parce que c'est elle qui a l'assistance de l'Esprit-Saint. Heureusement, heureusement, vous voyez. Et c'est pour cela que lorsque Bernadette était à Nevers et parfois on lui montrait des photos de Lourdes ou on lui parlait de Lourdes, elle était gênée. Pourquoi ? Parce qu'elle était restée à une image de ce qu'elle avait vécu. Mais voilà que l'Église doit faire son boulot, son travail ici à Lourdes. Et quel est le travail de l'Église ? Prêcher, célébrer la réconciliation, l'Eucharistie, l'onction des malades, c'est pas seulement le clergé, hein, c'est tout le monde, la charité et la prière, prêcher, célébrer, charité et prière. Et c'est parce qu'à Lourdes on fait ça que l'action de l'Esprit-Saint continue à agir sur le pèlerin. Et c'est pour cela que Lourdes c'est un lieu de vie, ce n'est pas un musée, autrement nous viendrons à un musée pour voir ce qui s'est passé il y a 154 ans. Mais on ne vit pas. Quand on vient en pèlerinage, on célèbre, on prie, on pardonne, on se nourrit du corps et du sang du Christ, on annonce la parole, la charité à l'œil nu, les pèlerins, les hospitaliers, la prière tout le temps, un lieu où on vit. Et les gens diront, ici c'est différent. Si c'est un musée, tout ça, ça n'existe pas. Ça va. Et c'est ça l'action de l'Esprit-Saint, vous voyez. C'est pour cela que la Pentecôte est au cœur. Et c'est grâce à ce travail de l'Église. Et quand je dis travail de l'Église, c'est tout. Hein. Il y a laïque, tout, il y a la béatitude, en fait tout. Cela veut dire que nous participons par ce travail qui est fait entre tous, parce que c'est nous, c'est l'Église qui a l'assistance de l'Esprit-Saint. Nous participons déjà de la gloire et de la victoire du Christ. Nous sommes réconciliés, nous nourrissons du corps et du sang du Christ, la parole, mes paroles sont esprit et vie, la charité, tout cela c'est la gloire du Christ. Ça va? Bon, et nous allons terminer, mystère lumineux. Alors, quels sont les mystères lumineux? Le baptême, les noces de Cana, l'annonce du royaume, ou la vie publique, oui. La transfiguration et l'Eucharistie. Alors là, on a un problème. Hein. Parce que, bon, on a fini les apparitions et nous avons les mystères lumineux. Qu'est-ce qu'on va faire? Il nous manque des apparitions pour remplir les mystères lumineux. Mais c'est Jean-Paul II qui les a inventés quand même. Il n'aurait pas dû quand même. Je plaisante pour l'enregistrement. Vous savez, en fait, les apparitions ont le rythme du chapelet. C'est parcourir avec Marie les mystères du Christ. Et vous voyez que Marie, elle sait faire une catéchèse comme une extraordinaire catéchiste. Mais en fait, le bénévole Jean-Paul II nous dira ceci. Il ne faut pas inventer des apparitions, hein, non. Jean-Paul II nous dira ceci. En fait, tous les mystères, joyeux, douloureux, glorieux, ce sont des mystères lumineux, parce qu'ils nous renvoient tous à celui qui est la lumière du monde, le Christ. Vous voyez, c'est pas. Hein. Mais Jean-Paul II dira ceci aussi, que ces mystères lumineux, ce sont comme les lumières qui nous sont données tout au long de notre existence, hein, pour pouvoir vivre le mystère de la vie du Christ. Donc, on va le parcourir avec Bernadette. D'abord, le baptême. Le baptême nous a été donné pour que nous nous submergions, n'est-ce pas, dans la mort et la résurrection du Christ, pour que nous nous identifions à lui, pour que nous soyons comme lui, prêtres, laïcs tous, hein, prêtres, rois et prophètes. Vous voyez ? Pour le pardon des péchés, quelle lumière, mon Dieu ! Et voilà que Bernadette, elle a reçu le baptême, dont les apparitions sont pour elle comme un déploiement de la grâce du baptême. Un déploiement. Quand vous dites, mais je vais participer, n'est-ce pas, à la réunion des béatitudes, je vais participer à la prière, je vais participer à la rencontre au carrefour, non pas seulement à Lourdes, là où vous êtes, tout cela c'est un déploiement de la grâce du baptême. Tout cela n'a qu'un seul but, que notre vie entre dans ce mystère de la mort et de la résurrection du Christ. C'est tout. Ça va. Quelle lumière, mon Dieu! C'est grâce au baptême. Deuxièmement, les noces de Cana, j'en ai parlé ce matin, vous étiez tous à la messe, nous parle de quoi? De l'alliance que Dieu fait avec l'humanité et comment Marie instaure cette alliance. Elle est au service de l'alliance entre l'humanité et son Fils. Et c'est pour cela qu'il nous a dit qu'elle porte le Christ, l'alliance. Donc elle va toujours nous introduire dans la communion avec son Fils, pour que cette alliance continue toujours présente au cœur de notre propre cœur. Quelle lumière, la présence de Marie, hein, qui nous introduit, n'est-ce pas, dans cette alliance. En fait, Bernadette, oui, elle retiendra la présence de Marie, bien sûr, mais surtout, hein, les apparitions, et puis dans la vie de Bernadette, c'est l'alliance qu'elle fait avec le Christ. Vous savez, à la fin de sa vie, Bernadette disait cette prière, « Jésus seul, Jésus seul, Jésus seul. » Mais c'est grâce aussi à Marie, l'alliance. Puis l'annonce du royaume, mais les paroles de Marie sont une annonce du royaume, sont un écho de l'évangile. Eh oui, hein? Pourquoi Marie, la première phrase dite par la Vierge ici, ça a été à la troisième apparition, qui a eu les trois phrases, hein? La première a été comme lorsque Bernadette lui montre une feuille de papier, un crayon, aux instances de Madame Millet, qui veut savoir si cette dame a un message à laisser, n'est-ce pas? Et Marie qui dira, « À ce que j'ai à vous dire, ce n'est pas nécessaire de le mettre par écrit. » Pourquoi? D'abord parce qu'elle tient compte de la vie de cette jeune fille qui ne sait ni lire ni écrire, de la culture. La Vierge aurait pu écrire un bouquin gros comme ça, que Bernadette n'aurait rien compris. Deuxièmement, pourquoi? Parce que, parce qu'il faut qu'on dialogue, il faut qu'on se connaisse. Et troisièmement, pourquoi il n'y a rien à mettre par écrit? Parce que nous possédons déjà les Écritures. Marie n'invente rien. Elle annonce l'Évangile. Annonce le royaume à cette jeune fille. Il n'y a rien à mettre par écrit, les Écritures sont là déjà. Bon, troisième, la transfiguration. Quand nous parlons de la transfiguration de Bernadette, ce n'est pas les extases de Bernadette. Même si ont été des extases qui ont impressionné un petit peu tout le monde, ce n'est pas les extases. C'est la transfiguration, c'est-à-dire c'est ce que Bernadette nous laissera connaître un petit peu à un moment donné, surtout à la dernière apparition. Elle est de l'autre côté du Gave, là où est le Carmel. Elle n'a pas pu s'approcher à la grotte, c'est la 18e et dernière apparition. Elle n'a pas pu, parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a des barrières, donc elle est continuellement gênée. Bon. Elle va se déguiser un petit peu, n'est-ce pas? Et elle est accompagnée par une autre dame. Elle est à 500 mètres de la grotte. Dernière apparition silencieuse, marquée par la prière. Et à la fin de l'apparition, elle dira, elle était plus belle que jamais. Plus c'est le loin, plus elle la voit belle. Pourquoi? Parce qu'elle a intériorisé la présence de Marie. Elle n'a plus besoin de la voir avec les yeux de la chair, elle la porte dans son cœur. Nous le verrons tel qu'il est, et nous deviendrons semblables à lui. Et voilà Bernadette qui devient semblable à Marie. Mais qui est ce Marie? Et donc elle devient fille de Marie. Mais qui est ce Marie? Mais Marie est la fille la plus éminente du Père. Donc, plus Bernadette devient fille de Marie, plus elle devient fille du Père. Vous voyez? Et c'est ça notre transfiguration. Ça va. Et puis finalement, l'Eucharistie. Alors, l'Eucharistie, c'est quelque chose d'exceptionnel dans le message de Lourdes. Je vous disais ce matin, n'est-ce pas, que Bernadette, 3 semaines avant les apparitions, elle quitte Bartrès, où elle avait été depuis 3 mois, où elle y était depuis 3 mois. Et son père lui dit, mais pourquoi tu quittes Bartrès? Là, on te donne à manger. Ah, parce qu'à Lourdes, il y a un prêtre. À Lourdes, il y a un prêtre. Hein? C'est-à-dire, je veux faire ma première communion. Donc, elle va s'installer au cachot. 3 semaines avant les apparitions, au détriment de sa nourriture matérielle, parce qu'elle veut cette nourriture spirituelle. Elle n'arrive pas à prendre le catéchisme puisqu'elle n'arrive pas à prendre son français. Hein? Et les apparitions se terminent comment? Par Bernadette faisant sa première communion, entre la 17e et la 18e apparition. Et parfois on pose cette question, mais pourquoi la Sainte Vierge est apparue à Bernadette? Moi je réponds, il y a plusieurs réponses, mais l'une d'elles est celle-ci, pour que Bernadette puisse faire sa première communion. Et c'est vrai. Quel jour fait Bernadette sa première communion? Le 3 juin, jour de la fête Dieu. Entre la 17e et la 18e apparition. Et la fête, et quelle est la fête qui précède à la fête Dieu? Non. Non. La Trinité. Il y a la Trinité et puis il y a la fête Dieu, l'Eucharistie. Pourquoi? Parce que l'Eucharistie, c'est le don du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'Eucharistie, c'est le don du Père. Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son propre Fils. Eh oui. L'Eucharistie, c'est le don du Fils parce que lui-même, il se livre. Prenez et mangez, prenez et buvez. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Il se donne. Et l'Eucharistie, c'est le don de l'Esprit Saint. Pourquoi? Parce que par la force de l'Esprit Saint, le don de l'Eucharistie se fait présent au milieu de nous. Lorsque le prêtre impose les mains, que par la force de l'Esprit Saint, ce pain devienne le corps du Christ, ce vin devienne le sang du Christ. Don du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais attention, c'est le don par excellence que Dieu fait à l'humanité, don de la Trinité. L'Eucharistie nous fait entrer dans la Trinité, dans la communion des divines personnes. Mais en même temps, l'Eucharistie nous fait entrer dans la communion avec tous les hommes et femmes de ce monde et fait de nous tous un seul corps. Il nous introduit, n'est-ce pas, dans la communion la plus parfaite avec Dieu et entre nous que nous puissions imaginer. C'est pour cela qu'il est dit, pour la rémission des péchés, dans les paroles de l'institution de l'Eucharistie. C'est la communion la plus parfaite que nous puissions connaître sur cette terre. Et comment voulez-vous que la Sainte Vierge n'ait pas tenu compte de tout cela? Et c'est pour cela que les apparitions se terminent par Bernadette communiant au corps et au sang de l'Eucharistie. Et là, entre en communion avec l'Église et avec tous ses frères d'une autre manière. La manière la plus, la plus excellente, par excellence, qu'on puisse connaître, la charité. Voilà ce que fait la première communion à nous. Hein. C'est ça qui fait l'Eucharistie à nous. Fait de nous tous un seul corps. Mais qu'est-ce qui se passait avant? Pendant 17 apparitions, Marie a présenté à Bernadette l'Évangile. Puis, entre la 17e et la 18e, l'Eucharistie. Donc, Marie, Bernadette a la parole et a l'Eucharistie. La 18e apparition, c'est les adieux. Elle n'a plus besoin de voir. Elle a tout ce qu'il faut pour vivre en communion avec le Christ. Elle est comme les disciples d'Emmaüs. Notre cœur ne brûlait-il pas quand il nous expliquait les Écritures? Le cœur de Bernadette ne brûlait-il pas quand Marie lui annonçait ou lui confiait ses paroles? Et puis, elle l'a reconnue à la fraction du pain. Elle est plus belle que jamais. Qu'est-ce qu'il nous dira Bernadette? Maintenant, je suis comme tout le monde. J'ai la parole, l'Eucharistie. Ça va? Bon, alors vous voyez, c'est pour ça qu'est apparue la Sainte Vierge aussi, pour qu'elle puisse communier. Bon, donc vous voyez ces mystères lumineux, n'est-ce pas? Ce sont des lumières qui nous sont données pour entrer dans les mystères de la mort et de la résurrection du Christ. Pour terminer, j'aimerais tout simplement que vous reteniez ces deux ou trois petites phrases prononcées par Bernadette. D'abord, je ne savais que mon chapelet, et je savais tout. Et puis, cette phrase qu'elle nous a laissée, qui pour moi, c'est un grand support spirituel, pour moi, c'est une grande découverte, ensemble. Et nous disons, Marie et moi, et c'est moi, c'est chacun d'entre nous, ensemble, nous dîmes le chapelet. Marie et moi. Là où vous êtes, alors, ensemble, nous dirons un « Je vous salue, Marie ». « Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. » Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette, ô Marie conçue sans péché, et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci. Voilà.